Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc commence par nous donner quelques précisions historiques pour nous rappeler que Dieu a choisi de s'incarner, de devenir homme, dans des circonstances bien précises. Et il fait mention, pas uniquement des rois, mais aussi des prêtres, pour nous rappeler que cet homme, qui est vraiment Dieu, est par conséquent prêtre et roi. Mais après ces quelques précisions historiques, Saint Luc nous donne la prédication de Saint Jean-Baptiste, que d'ailleurs l'Église nous donne depuis plusieurs dimanches. Et Saint Jean-Baptiste nous rappelle qu'il faut préparer la voie à la venue du Messie. Comme il y a 2000 ans, notre Seigneur veut naître dans notre âme à Noël et dans des circonstances bien précises. Il nous faut lui préparer nos cœurs. Prenons alors notre chapelet et à l'école de la Très Sainte Vierge Marie, voyons comment elle a préparé cette naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et ce qu'elle nous apprend à faire. Dans ce troisième mystère joyeux, nous sommes à quelques jours de la Nativité. Contentons-nous de regarder la Vierge Mère. Que dit-elle? Eh bien, comme souvent dans l'Évangile, c'est le silence. Le silence tout d'abord d'adoration. D'adoration devant ce grand mystère de Dieu qui se fait homme. Mais quels sont les sentiments de cette âme de la Sainte Vierge si remplie de Dieu? Pour y pénétrer un peu, nous devons la connaître davantage. Quand nous scrutons sa vie à l'aide de l'Évangile, nous pouvons remarquer deux choses. La Sainte Vierge avait une âme très sensible, très délicate aux besoins du prochain, aux misères des hommes. Tout d'abord dans la Visitation, après avoir conçu le Fils de Dieu, elle s'empresse pour aller voir sa cousine Élisabeth, qu'elle sait dans le besoin, afin de l'aider pendant quelques mois. Plusieurs années plus tard, lors de la perte de notre Seigneur au Temple, elle va le rechercher avec une grande douleur pendant plusieurs jours. Elle va faire connaître cette douleur à son fils quand elle le retrouve. Et encore, des années plus tard, aux noces de Cana, c'est encore la Sainte Vierge, attentive à son prochain, qui remarque qu'il n'est plus de vin et qui fait la démarche pour aller le dire à son fils. C'est pourquoi, dès ce moment de la Nativité, Notre-Dame va souffrir, souffrir profondément, d'être rejetée de l'auberge et de Bethléem. Souffrir de pouvoir offrir si peu de choses à son fils, qu'elle sait maître du monde. Souffrir encore de la haine du roi Hérode qui cherche à tuer cet enfant Dieu. Mais nous remarquons aussi dans la vie de la Sainte Vierge Marie une deuxième chose. Si elle parle peu, l'Évangile nous transmet quand même cette parole de la Sainte Vierge. Mais chaque fois, elle parle si très brièvement, quelques mots. sauf pour une exception, c'est lors de son Magnificat à la Visitation. Et pour son Magnificat, elle parle longuement. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment, il s'agit de louer Dieu, de le remercier. Et ainsi, nous voyons que la Sainte Vierge avait une âme remplie d'actions de grâce, toute tournée vers les bienfaits de Dieu. Et alors, dans ces jours qui précédaient Noël, pour l'ultime préparation à la naissance de Dieu fait homme, la très sainte Vierge Marie souffrait de voir tant d'hommes vivre selon les maximes du monde et de ne pas respecter les commandements de Dieu. Et pourtant, elle remerciait Dieu qui allait apparaître dans une chair visible dans ce monde pour racheter les hommes. La Sainte Vierge souffrait de constater la préoccupation fiévreuse pour les choses de cette terre et le délaissement du soin des âmes. Et elle remerciait Dieu de ce que lui, qui n'avait aucun besoin des hommes, se préoccupe tellement de leur salut jusqu'à se priver de tous les biens de cette terre afin de les attirer au ciel. Et elle souffrait d'être rejetée de Bethléem par tous ces gens qui ne voulaient ni d'elle ni de Saint-Joseph. Et pourtant, elle continuait à remercier son Dieu invisible qui dans quelques jours allait se montrer visible. Elle remerciait son Dieu qui ne pouvait pas souffrir de ce qu'il allait prendre une chair capable de souffrir et même de mourir. Elle remerciait de ce que le Tout-Puissant, qui tient tout dans sa main, allait se faire tout petit, impuissant, dans ses mains virginales. Chers fidèles, nous aussi, nous sommes dans la souffrance. L'apostasie généralisée du monde ne peut que faire souffrir ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut qu'il soit proclamé partout et qu'il règne dans les sociétés. Le silence scandaleux des autorités qui devraient nous guider est encore pour nous une cause de souffrance. Et ensuite, bien sûr, il y a nos péchés et nos propres misères. Mais avec tout cela, nous ne souffrons certes pas autant que Notre-Dame. Et nous devons, comme dans la souffrance, imiter Notre-Dame aussi dans son action de grâce. La préface de la messe nous y invite. Il est vraiment digne et juste que nous rendions grâce toujours et partout. Rendre grâce, c'est aussi une façon de consoler Notre-Dame et notre Seigneur. À Paris le Monial, comme à Fatima, ces deux cœurs se sont plaints notamment de l'ingratitude des hommes. Et la Sainte Liturgie nous invite très souvent à louer Dieu, à rendre grâce, notamment dans les psaumes. Et en effet, comment remercier comme il faudrait Dieu de lui-même? Il faut s'arrêter justement pour remercier Dieu de ce qui soit Dieu. ce grand mystère de la très sainte Trinité. Un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont infiniment heureux. Et ce mystère, il nous a donné la grâce de le connaître pour nous consoler dans les plus grandes difficultés. Ou encore, comment remercier pour le grand mystère de l'incarnation, de ce que Dieu, infiniment heureux en lui-même, s'abaisse jusqu'à devenir homme. Ou le grand mystère de la rédemption, de ce que, pas seulement il prend une nature humaine, mais il va s'immoler sur la croix. Ou encore ce grand mystère de l'Église, cette société fondée par notre Seigneur Jésus-Christ pour continuer son œuvre du salut des hommes, notamment par les sacrements. Et encore, chacun d'entre nous, nous avons à remercier pour la grande grâce du baptême, dans lequel nous avons reçu la foi, la grâce sanctifiante. Encore, comment remercier comme il faudrait pour l'Eucharistie, ce sacrement qui nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme lui-même, pour être notre nourriture. Encore, comment remercier pour avoir reçu pour mère la propre mère de Dieu, Notre-Dame, ou que chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien qui veille sur nous instant après instant. Avec quelle sollicitude! Et encore, il nous faudrait remercier pour toutes les grâces moindres, mais encore combien grandes, d'une famille chrétienne, d'une éducation catholique, de quelques amis pour nous aider, de la santé, des talents que nous avons reçus afin de les faire fructifier. Et la liste est interminable. Mais nous devons remercier pour tous les bienfaits, c'est-à-dire tous ceux qui nous font du bien. Et il ne faudrait pas alors oublier les épreuves, les croix, les difficultés, qui sont souvent les occasions pour nous de progresser en grâce. Parce que, comme disait saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si cette action de grâce est une façon d'honorer et de consoler notre Seigneur et Notre-Dame, c'est aussi une façon de faire du bien à notre propre âme. Dans quelques jours, nous allons célébrer Noël. Et d'ici là, nous devons tâcher de nous approcher le plus près possible de la crèche avant de recevoir toutes les grâces que notre Seigneur veut nous donner. Et comment nous approcher de cette crèche? Tout simplement en faisant des actes, des vertus théologales. Ces vertus qui vont nous approcher de Dieu, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et remercier Dieu pour ses bienfaits est justement une façon de nous faire ces actes de foi, d'espérance et de charité. Tout d'abord, des actes de foi. L'action de grâce se base sur notre état de créature et de pécheur indigent et impuissant, et en même temps sur la bonté gratuite de Dieu qui nous accorde tant de bienfaits. Des actes d'espérance. Saint Thomas d'Aquin disait que le fondement pour recevoir de nouvelles grâces était l'action de grâce pour celles déjà reçues. Alors, plus nous remercions pour toutes les grâces reçues, plus nous pouvons et même devons espérer des secours immenses de Dieu à l'avenir. Et enfin, des actes de charité. Regarder les bienfaits de notre ami ne peut que nous inciter à l'aimer davantage. Et plus nous l'aimons, plus il comblera aussi nos cœurs. Alors, chers fidèles, pendant ces quelques jours qui nous séparent de Noël, prenons notre chapelet et prions silencieusement, silencieusement à l'écart du monde et de ses bruits. Accompagnons ainsi Notre-Dame et consolons-la, et qu'elle nous aide à remercier de toute notre âme son Fils pour ses bienfaits passés, afin de recevoir les grâces de Noël qu'il nous prépare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.